journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. De nombreux médias annoncent la mort de Paul Auster. Le célèbre auteur américain avait 77 ans et souffrait d'un cancer. Son portrait dans une minute.
Un reportage à New York où la police a évacué hier soir le campus de l'Université de Columbia pour y déloger des manifestants pro-palestiniens.
Un retour sur la mobilisation des salariés de Sanofi à Paris. Le groupe pharmaceutique annonce supprimer 1200 emplois dans le monde, plusieurs centaines en France.
La santé a-t-elle un parti d'après une étude de l'Ipsos? Les Français s'en préoccupent beaucoup, mais les politiques en parlent très peu. Ce décalage peut-il durer? Jean Lémarie pose la question. Ça sera dans son billet politique à 7h15.
Son nom restera pour toujours associé à New York. Le romancier américain Paul Auster est mort, a annoncé il y a quelques heures le New York Times, ainsi que d'autres médias, la radio américaine NPR ou encore le quotidien britannique The Guardian. Paul Auster avait 77 ans. Roman, poésie, essai, théâtre, nouvelles et même scénario, sa plume a écumé tous les champs de l'écriture. Et puis, il y a un an, son épouse, l'écrivaine Siri Husvedt, a annoncé qu'il souffrait d'un cancer, Hélène Combis.
Plus de 30 livres traduits dans une quarantaine de langues, c'est l'héritage littéraire du géant de Brooklyn, Paul Auster. Brooklyn, le quartier de New York où il vivait, était le décor de plusieurs de ses romans. C'est à deux pas de là, mais de l'autre côté du fleuve Hudson, que naît l'écrivain en 1947. Dans ses jeunes années, il ne vibre que pour le baseball. Un jour, il rencontre le joueur vedette Willie Mays, mais n'a pas de crayon en poche. Il est privé d'autographe. Depuis, il porte toujours sur lui de quoi écrire. Pour ce qui est de lire, c'est la bibliothèque publique qui répond à l'appétence du jeune garçon. En 2018, l'écrivain confiait au producteur de France Culture Arnaud Laporte ce moment où, à 9 ans, aux prémices du printemps, il a vécu une sorte de révélation, d'envie irrépressible d'écrire. De même, quelques années plus tard, après la lecture de Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Paul Auster écrit beaucoup avant d'être publié. Cet amoureux de Paris se consacre d'abord à la poésie et traduit des poèmes français. Dans la trentaine, il écrit un premier roman alimentaire, un policier. Peu de temps après, son père meurt brutalement. Il débute alors l'écriture de L'invention de la solitude, dans lequel il interroge les rapports familiaux et la mémoire, des motifs récurrents dans son œuvre. Quelques années plus tard, avec sa trilogie new-yorkaise, il devient un auteur d'envergure internationale. Paul Auster réalise aussi quelques films dont Smoke en 1995. Cette expérience de camaraderie sur le tournage le ravit. En 2022, il perd sa petite fille de 10 mois, puis son fils Daniel qui meurt d'overdose. Un an plus tard, l'écrivain déclarait un cancer. Sur notre antenne en français, avec un léger accent, il avait dit « aimer la vie mais ne pas penser à la postérité ». À quoi me sert de penser à ça puisque je serai mort.
Hélène Combis, et nous y reviendrons après ce journal dans les matins avec vos invités, Guillaume Erner.
Absolument, on va évoquer donc cette triste nouvelle. On verra notamment comment Paul Auster a marqué l'histoire littéraire contemporaine et nous serons notamment en compagnie de la philosophe Perrine Simon-Naoum.
New York, le décor de Paul Auster, celui aussi des étudiants de l'Université Columbia. La police est intervenue hier soir sur le campus, point de départ d'un vaste mouvement pro-palestinien et contre la guerre à Gaza. Dans la nuit de lundi à mardi, des jeunes ont investi l'un des bâtiments, deux semaines après le début de ces manifestations, exigeant notamment de leur université qu'elle rompe ses liens économiques avec Israël. Loïc Loury s'est rendu sur place.
À quelques rues du campus, derrière un cordon de policiers, une poignée de manifestants sous la pluie ont continué à huer jusqu'à 23 heures chaque véhicule des forces de l'ordre. Adrien, notamment un habitant du quartier.
Je voulais venir voir le visage de ces policiers. On dirait qu'ils sourient. C'est intolérable de me dire que je ne peux rien faire. On a ce sentiment d'impuissance dans ce pays face à ce fascisme rampant.
Deux semaines après le début du mouvement, né ici à Columbia, cette évacuation totale à grand renfort de police anti-émeute fait aux étudiants l'effet d'une douche froide. Kim et Sam voient leur fin d'année gâchée.
Cette violence sur le campus est inacceptable pour moi. Je crois que les étudiants faisaient ce qu'il fallait faire. Ces manifestations sont pacifiques.
Ça m'effraie parce que je ne peux me concentrer sur rien. Et c'est une semaine d'examen. Mais je n'ai pas la tête à me préparer. Et ce qui se passe là est plus important.
L'université, qui avait temporisé jusque-là, estimait, dit-elle, ne plus avoir d'autre choix qu'une évacuation totale. Le mouvement, depuis deux semaines, a toutefois essaimé partout dans le pays et s'impose à six mois de l'élection présidentielle comme un thème majeur de campagne.
Et la présidente de l'université souhaite une présence policière jusqu'au 17 mai. Trêve ou pas à Gaza, il y aura une offensive à Rafah sur le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, là où sont réfugiés, à la frontière égyptienne, environ 1,5 million de Palestiniens. Une opération terrestre dans cette ville serait une tragédie sans nom, a réagi l'ONU. Plusieurs éléments font penser que cette opération est déjà en cours de préparation. Témoignage à Gaza recueilli à distance par Étienne Monin.
À Rafah, cette gigantesque migration forcée crée déjà de la tension. Les habitants disent que les bombardements se sont intensifiés près de la frontière pour couper la route des tunnels. Et tout le monde a entendu parler des camps qui se montent plus au nord, à Khan Younes, explique Asma, palestinienne, déplacée à Rafah, jointe par WhatsApp.
Les gens parlent qu'il y en a des tentes à Khan Younes, au bord de la mer, pour que les gens puissent sortir de Rafah s'il y en a une opération israélienne.
Sur des images satellites qui datent d'une semaine, on voit un alignement de tentes blanches serrées. Elles auraient été montées par le Croissant Rouge égyptien. Le site est largement sous-dimensionné, mais il préoccupe l'ONU et les ONG qui n'ont pas été associées. Philippe Bonnet est directeur des urgences à Solidarité Internationale.
On observe ça, on se pose beaucoup de questions. Il ne suffit pas de poser des tentes. À côté des tentes, il faut tout un service d'assainissement. Il faut tout un service d'eau, de santé. Aujourd'hui, ça ne paraît pas possible.
Il y a aussi des inquiétudes sur la sécurité. Les combats ont été intenses à Khan Younes. Frédéric Odessi pour Handicap International rappelle que presque 10% des munitions restent sur le terrain.
Les gens, s'ils bougent vers des zones qui ont été bombardées, sont à risque. Il y a des restes explosifs de guerre, des bombes non explosées, parfois sur les routes, parfois sur les terrains vagues ou entre des camps de maison.
Pour cette opération, Israël veut acheter 40 000 tentes capables d'héberger un demi-million de personnes. Leur installation sur le terrain symbolisera, à proprement parler, le coup d'envoi de l'attaque.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Comme chaque année, c'est un 1er mai syndical qui se prépare, mais avec des revendications variées.
Contrairement à l'an dernier où les 8 principaux syndicats avaient défilé ensemble pour dire non à la réforme des retraites, il n'y a pas de mot d'ordre national interprofessionnel. Parmi les nombreuses mobilisations du moment, citons celle des salariés de Sanofi. Le groupe pharmaceutique, l'un des poids lourds du CAC 40, a annoncé le mois dernier supprimer 1200 emplois dans le monde, dont 330 en France. Hier, des salariés venus de tous les sites se sont réunis devant le siège parisien, avant l'Assemblée générale annuelle des actionnaires. Le reportage de Camille Magnard.
Environ 200 salariés, beaucoup en blouse blanche, barrés de slogans. Sanofi tue sa recherche, dit l'un des plus repris. Et c'est bien le constat que fait Aline Esseric, déléguée centrale CFDT. Elle rappelle qu'il s'agit du troisième plan social en 5 ans et que ce sont des postes en R&D, recherche et développement, qui disparaissent à chaque fois.
On était à 6000 en 2009 et là on se dirige vers 2600. Ce sont des postes qui disparaissent en France. Il y a une partie qui sont recréées à Budapest ou en Inde, à Hyderabad.
Chasuble CFTC sur le dos. Guillaume Chapdelaine travaille sur le site de Vitry, dans le Val-de-Marne. 288 postes, soit un cinquième des emplois, y sont menacés. Parce que la direction du groupe veut abandonner la recherche de médicaments sur les cancers, soi-disant trop coûteuses et risquées.
Au dernier plan, on nous a dit il faut aller en oncologie parce que c'est l'avenir. Et 2 ans ou 3 ans après, ils nous disent non, on n'a pas réussi. Donc maintenant, on va devenir un leader en immunologie.
Sanofi ne s'intéresse qu'aux traitements coûteux qui seront vendus avec des fortes marges, comme des produits de luxe.
Au micro, Jean-Paul Nicolas, délégué CFDT, chercheur en oncologie.
Sanofi nous prépare un futur avec des soins si coûteux qu'aucun système de santé au monde ne pourra les proposer à tous. Merci.
Le modèle de cette stratégie de rentabilité à court terme, selon Fabien Mallet de la CGT, c'est le médicament star Dupixent. Il soigne plusieurs maladies de peau, maladies respiratoires aussi, et il rapporte à lui seul 20% du chiffre d'affaires de Sanofi.
Le Dupixent rapporte beaucoup d'argent, vite, et ça permet d'arroser les actionnaires. Le problème de cette façon de voir les choses, c'est que ça veut dire que tout repose sur la capacité de capter plus tard des molécules ou des nouveaux traitements qui seraient soit issus de start-up, soit issus de la recherche publique. Mais c'est un pari.
Ce nouveau plan social est le premier dans l'histoire du groupe à prévoir des licenciements et plus seulement des mutations ou des départs volontaires et non remplacés.
Camille Magnard, la CGT des éboueurs parisiens a déposé un préavis de grève. Deux périodes sont concernées, plusieurs dates courant mai. Et du 1er juillet au 8 septembre, soit pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, ils réclament notamment une prime exceptionnelle de 1900 euros pour les agents sollicités lors des JO. Ni manquement du collège, ni harcèlement, c'est la conclusion d'une enquête administrative, un mois après l'agression d'une élève, Samara, à proximité de son établissement de Montpellier. L'adolescente de 13 ans avait été violemment frappée après ses cours, puis est restée dans le coma plusieurs heures avant de se réveiller. Le rapport précise que l'agression n'a pas eu lieu sur le parvis du collège, mais au moins à 200 ou 300 mètres. Et selon les inspecteurs Thomas Pinaroli, le suivi de Samara par l'établissement était à la hauteur.
Le rapport souligne que le professeur principal de Samara est intervenu à plusieurs reprises le jour de l'agression. En fin de matinée, pour la séparer d'un autre élève, il l'accusait d'avoir pris des photos à son insu et voulait qu'elle les supprime. Puis, vers midi et demi, pour éloigner un groupe de jeunes extérieurs au collège qui alpaguaient la jeune fille, à chaque fois, Samara assure à son professeur que ce n'est pas grave. Il interviendra une dernière fois autour d'un attroupement à 300 mètres du collège, juste après l'agression. Le rapport précise que l'établissement a alors très vite alerté la police et la mère de Samara. Plus globalement, les inspecteurs indiquent que le collège suivait la victime de près, compte tenu de ses absences répétées, de notes en forte baisse et de frictions à répétition avec ses camarades. Un membre du programme phare qui lutte contre le harcèlement scolaire l'avait d'ailleurs reçu en janvier, mais elle n'avait pas voulu donner les noms des élèves impliqués. Le dossier n'est donc pas allé plus loin, conformément au protocole. Quant au post menaçant Samara sur les réseaux sociaux, le personnel n'en avait pas connaissance avant l'agression, pas plus qu'une précédente agression qu'elle aurait subie en dehors du collège. Des photos publiées sur les réseaux sociaux semblent être à l'origine de toute cette violence. C'est désormais à l'enquête judiciaire d'apporter plus de réponses.
Cinq mineurs sont mis en examen pour tentative d'homicide volontaire dans cette affaire. La mère de Samara se dit très choquée de ce rapport qu'elle conteste. Cette fois, c'est un directeur d'école qui se dit pris pour cible dans un établissement qu'il dirige depuis 15 ans. Nicolas Bourrez a porté plainte et ne retournera pas pour le moment au travail. Il a expliqué dans une vidéo postée sur le réseau X avoir reçu des menaces de certains parents d'élèves. Il s'occupe de l'école André Chénier à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Un comité de défense de l'école publique lui reproche de vouloir instaurer l'uniforme dans son établissement. Les menaces envers les enseignants existe depuis toujours, rappelle Françoise Lantôme, sociologue et professeure des universités en sciences de l'éducation à Lyon.
Au début de l'école publique, par exemple, quand il s'agissait de scolariser des élèves, il y avait des instituteurs qui étaient attendus à coups de fourche. Donc l'école publique a toujours été l'objet d'attitudes hostiles de la part de certaines parties de la population. Donc l'école n'est pas à part du monde. Et ces tensions se retrouvent à l'égard de l'école avec des groupes d'opinion, qu'il s'agisse, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de certains groupes islamistes, mais aussi d'extrême droite, qui essayent au moins de faire une pression à l'égard de l'école et de ses personnels. Et d'une façon générale, les relations entre les familles, les parents d'élèves et l'école ont changé sous l'effet d'une évolution de la conception de l'éducation qui est perçue parfois plus comme un bien, un service, comme on acquiert un ordinateur, disons, à propos duquel on va négocier. Donc ça peut rendre les relations compliquées entre les parents et les enseignants.
La sociologue Françoise Lantôme, des propos recueillis par Talita Thierrot. Depuis hier, la liberté guidant le peuple est de nouveau accrochée au Louvre dans la salle rouge du musée parisien. Le tableau du 19e siècle signé Eugène Delacroix a été minutieusement restauré pendant 6 mois. Un chef-d'œuvre qui immortalise le retour du drapeau tricolore, symbole de la République, Fanny Imbert.
Une fois retirées les 8 couches de vernis oxydées et encrassées depuis la dernière restauration il y a 75 ans, les couleurs se révèlent plus subtiles, les noirs plus profonds. Bénédicte Rémolière est restauratrice. Elle a passé 6 mois à traquer les détails du buste de la liberté.
On ne voyait pas tous les rappels de couleurs bleues et rouges. Vous pouvez me faire confiance sur le fait que cette lèvre rouge, l'ombre qu'il y a sous la lèvre, il y a une petite touche de bleu qui juxtapose donc le rouge intense de ses lèvres. On en trouve aussi dans le bras, juste sous sa main, au niveau du poignet.
Le bleu, le blanc et le rouge imprègnent l'ensemble du tableau. Eugène Delacroix a 32 ans lorsque la Révolution de Juillet éclate. Il lui rend hommage en peignant la plus connue des allégories de la liberté, baïonnette au poing, mais surtout brandissant un drapeau tricolore, rappelle Sébastien Allard, directeur du département des peintures du musée du Louvre.
La force de la couleur participe au sens, notamment dans un tableau comme celui-ci, qui est construit autour de ce drapeau qui ressurgit en 1830 et qui s'oppose au drapeau blanc de la monarchie. Le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est le drapeau de la Révolution qui revient ici sur le devant de la scène.
Un coup de neuf pour la toile qui permet d'apprécier, au-delà de sa symbolique, le génie pictural d'Eugène Delacroix.
Le Louvre qui consacre un vaste programme de restauration au grand format du 19e siècle. La prochaine concernera l'entrée des croisés à Constantinople qui date de 1840. 14 départements de la Somme à Lyon seront placés en vigilance orange aux orages ce soir, annonce Météo France. Journée grise, pluvieuse en général, sauf dans l'Est. 12 degrés, pas plus cet après-midi à Bordeaux, 14 à Brest, 19 à Paris, jusqu'à 24 à Metz. 8h40.